France Info.
Bonjour Bruce Toussaint.
Bonjour Élodie.
Vous êtes journaliste et animateur de télé actuellement à la tête de la matinale Bonjour sur TF1. Votre visage et votre voix sont d'ailleurs souvent associés aux matinales. C'est vrai que vous avez officié dans cette case sur Canal+, sur iTélé et même sur France Info ici. C'est un petit retour au bercail. Pourtant, vous avez démarré en tant que journaliste sportif avant de rejoindre l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+, après le départ de Philippe Gildas. Depuis 2023, vous avez une casquette de plus, celle d'écrivain. Après, heureusement, elle n'a pas souffert en hommage à votre mère disparue et sortie il y a 2 ans. Vous publiez Dites-lui que je pense à elle, aux éditions Stock, un livre à cœur ouvert dans lequel vous racontez comment vous avez découvert, après la disparition de votre grand-mère, Colette, en vidant les tiroirs de sa table de chevet, une coupure de journal sur laquelle se trouvait un article consacré au meurtre d'une adolescente de 14 ans. Ce bout de papier vous a replongé violemment dans votre passé et pour cause, cette adolescente qui s'appelait Nathalie était votre cousine. Vous n'avez jamais oublié ni la violence de l'annonce, ni l'incompréhension de sa disparition le lendemain de votre anniversaire et de vos 11 ans, donc le 18 octobre 1980. Ce livre n'est-il pas finalement une belle manière de redonner vie à votre cousine en rendant hommage à cette grand-mère adorée qui ne s'est jamais remise de cette disparition?
Oui, c'est un double hommage, vous avez raison. Cette grand-mère a eu un rôle très important pour moi dans mon éducation. C'est une sorte de grand-mère idéale, je la compare à Denise Gray dans La Boum. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose comme ça, beaucoup de fantaisie et en même temps une grande écoute. J'ai adoré cette femme qui est décédée il y a une dizaine d'années. Et cette cousine, en fait, était enfouie dans le passé. C'est quelqu'un qui a disparu au sens propre et au sens figuré lorsqu'elle a été assassinée. La famille a comme mis une sorte de chape de plomb sur cette disparition et sur cet acte horrible. J'ai voulu comprendre pourquoi. C'est en me replongeant dans cette histoire que j'ai compris en effet ce qui s'était passé. Quand on a 11 ans, on n'a pas conscience forcément des circonstances et de tout ce qui peut se passer. On est encore très tout petit. Et donc, 40 ans après, j'ai pu faire ce travail.
Vous parlez de sentiment de honte, presque, de la part de la famille, de culpabilité, certes, mais un sentiment de honte, c'était vraiment scellé par le sceau du secret. Il a fallu soulever quand même un certain nombre de choses. Même pour vous, ça a été difficile, Bruce, parce que vous êtes revenu sur les terres de votre enfance.
C'est quelque chose qui a été assez douloureux à raconter, à exprimer. D'abord parce que j'ai été à la fois journaliste et membre de la famille, donc ça veut dire que j'ai fait ce boulot de journaliste à fond, en interrogeant des témoins de l'époque,
En consultant les archives.
En retrouvant en effet le dossier judiciaire, en consultant les archives, et je peux vous dire que c'est pas facile d'ouvrir certains dossiers, etc. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. C'est très particulier parce que quand j'ai commencé à réfléchir à cette histoire, j'avais pas forcément l'idée d'un livre. Et puis petit à petit, mais je me suis dit, mais il faut que je raconte cette histoire. C'est fou.
Le livre, il s'ouvre d'une manière assez violente. Il s'ouvre sur un coup de téléphone que vous passez au meurtrier de votre cousine. Vous avez pris la peine de l'appeler pour lui signifier que vous étiez en train d'écrire un livre.
La démarche que j'ai fait, la démarche d'enquête, elle impose d'aller au bout. Et donc, quand on enquête sur quelque chose qui s'est produit comme ça 40 ans avant, on est confronté à ça. Il faut accepter cette réalité. Alors, je peux pas tout révéler parce que c'est un livre, donc je raconte aussi certaines choses, mais est-ce que ce coup de fil a vraiment eu lieu?
Moi, j'ai la réponse. Vous nous plongez dans ce drame. Hein. Nous sommes effectivement le 18 octobre 1984. La veille, vous le précisez, vous veniez d'avoir 11 ans. Ce 18 octobre, il est horrible pour vous. Vous avez perdu votre cousine le lendemain de votre anniversaire et pareil pour votre mère. Donc c'est vraiment, vous le dites, j'ai hâte d'avoir mon anniversaire, mais le lendemain, c'est toujours un moment d'angoisse. À cette époque, on ne croyait pas beaucoup aux victimes. D'ailleurs, vous recensez le nombre de plaintes à l'époque. C'est 3000 plaintes de viol. Vous expliquez d'ailleurs à travers cet ouvrage à quel point même les termes sont totalement révolus, les termes journalistiques, puisque quand on plonge dans les articles des journalistes, ils précisent par exemple qu'il a tué. Aujourd'hui, il y a cette présomption d'innocence. Et puis vous racontez aussi que le gros plan, il est mis sur l'auteur des faits, pas sur la victime. C'est-à-dire qu'on s'apitoyait beaucoup sur le sort de l'accusé.
C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose lorsque je commence à enquêter, à m'intéresser à cette histoire, et je me rends compte de l'incroyable chemin qui a été parcouru en 40 ans. À l'époque, on parle de quoi? On parle d'un crime passionnel. C'est un homme de 29 ans qui tue une adolescente de 14 ans parce qu'elle se refuse à lui. On n'explique pas ça comme un féminicide, c'est le terme qu'on utiliserait aujourd'hui, mais comme, au fond, quelque chose... Il y aurait une sorte de fatalité face à un acte aussi horrible parce que ce garçon, par ailleurs, a eu des problèmes réels dans son enfance et son adolescence. Donc il a beaucoup de circonstances atténuantes, à tel point que la justice, d'ailleurs, ne va le condamner que, on va dire, modérément, même 15 si 15 ans, c'est beaucoup, attention, mais par rapport à ce qu'il risquerait sans doute aujourd'hui. Donc, c'est aussi tout ça, c'est le regard de 2025 sur un truc qui s'est passé en 84, et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment la société pouvait-elle être à ce point avec des œillères? Comment la société a-t-elle pu évoluer autant? Alors, favorablement, évidemment, aujourd'hui, sur ces sujets-là, mais c'est fou, ça m'a sauté aux yeux.
Ce qui vous saute aux yeux aussi, à travers les échanges que vous pouvez avoir, parce que vous avez rencontré la mère de votre cousine, donc votre tante, elle comprend aujourd'hui davantage à quel point elle n'a pas traité correctement les informations qui étaient données, même si elle était très taiseuse, votre cousine. Elle l'appelait l'autre depuis très longtemps, par exemple. Ça saute aux yeux dans le texte.
Oui, ce qui est terrible, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a plus de mécanismes de défense, on a plus de signaux d'alerte. À l'époque, au fond, c'est une famille qui se dit que ça va aller, que oui, effectivement, il y a ce garçon qui tourne autour, mais c'est pas méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette idée-là. On ne voit pas le danger arriver, mais je pense qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. C'est juste que la société à l'époque est faite d'une telle façon que on se dit que les choses vont bien se passer. Aujourd'hui, je pense, et c'est heureux, si la même histoire avait lieu, je pense qu'il y aurait plus de contre-feu. À l'époque, rien ne s'allume. En tout cas, pas assez. Et donc, c'est vrai que c'est terrible pour cette famille de se dire, mais mon Dieu, on n'a pas su protéger cet enfant. Même s'il y avait un amour immense pour cette adolescente, il y avait tout ce qu'il fallait dans cette famille, même si c'était une famille un peu désœuvrée, ils n'ont pas imaginé que le pire allait se produire, alors qu'en fait, le mécanisme de l'emprise, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qu'on entend, vous savez, sur les féminicides, comment un homme considère qu'une femme est un objet. Parce que c'est ça l'histoire. Cet homme a considéré que la vie de cette femme n'avait pas de valeur et qu'il pouvait broyer sa vie. C'est comme ça. Et donc, c'est tout le mécanisme de l'emprise, du féminicide, du passage à l'acte, parce que tout est prémédité. Hein. C'est pas un meurtre impulsif.
Hein. Depuis la veille, hein, déjà.
C'est un meurtre avec préméditation, avec achat d'une arme et passage à l'acte dans les 48 heures qui suivent, en effet. Et donc, tout ça, aujourd'hui, on est mieux informé de ça. On est mieux sensibilisé à ça. À l'époque, on ne l'est pas assez et le pire s'est produit.
La justesse de vos propos est assez étonnante. C'est-à-dire que vous avez pris la peine, certes, d'étudier le profil du meurtrier, mais surtout, vous nous le racontez. Et on est un peu pris par la main. On a l'impression de faire partie, d'ailleurs, du tribunal, à ce moment-là, du jury. On se dit, mais évidemment, il n'a pas une vie facile. Il a découvert son père pendu enfant. Sa mère lui a demandé quand même d'aller vérifier que son père était bien mort. Donc, c'est quelque chose qui l'a énormément marqué. Il a lui-même tenté, avant, de mettre fin à ses jours. Il a été sauvé in extremis. Et puis, il était parti, justement, dans cette région, auprès des amis, des parents de la famille pour se ressourcer parce qu'il était en burn-out. Et c'est la vue de votre cousine qui va donner un sens à sa vie. Il va tomber amoureux immédiatement de cette gamine de 14 ans alors qu'il en a 29.
Oui, parce que la vie de cet homme est une vie difficile, compliquée. Il n'y a pas de manichéisme sur ces histoires-là. Et donc, a une vie sentimentale quand même quasi désertique. Et il rencontre cette adolescente qui a 14 ans, qui en fait un petit peu plus, qui a déjà des formes, qui est très gentille. Et il tombe amoureux d'elle. Et pourquoi il tombe amoureux d'elle? Parce que c'est pas une femme. Il tombe amoureux d'elle parce que, justement, elle ne lui fait pas peur. C'est quelque chose qui va être dit pendant le procès. Il avait peur des femmes. Et pourquoi il a pas peur d'elle? Parce que c'est pas une femme. Parce que c'est encore une adolescente. Donc, il se sent en confiance. Et il ne voit pas, il ne comprend pas que cette histoire est impossible. Tout l'indique autour de lui.
Elle lui a dit d'ailleurs elle-même.
Elle lui dit, évidemment. Il est prisonnier, en quelque sorte, ce qui ne lui donne aucune excuse, hein, mais de sa pensée et d'une forme de folie.
Il va être condamné à 15 ans de prison,
oui.
Notamment avec de grosses condamnations pécuniaires qui n'ont jamais été réellement honorées. Je ne vais pas tout dévoiler, mais à la fin, il a quand même écrit à la maman, s'expliquant, en s'excusant. C'est terrible d'ailleurs, parce que jusqu'au bout du bout, il lui demande si elle peut l'aider à mourir. Jusqu'au bout du bout, ce garçon n'a finalement pas trouvé le bon chemin, on a l'impression.
Vous savez, moi, ce qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est d'essayer de comprendre comment un garçon, parce que en parcourant le dossier judiciaire, j'ai eu accès à des lettres qu'il avait écrites, pas seulement à la famille de la victime, mais aussi au juge d'instruction, à sa mère, à sa sœur. C'est des belles lettres. C'est des lettres écrites par quelqu'un d'instruit, de relativement intelligent, cultivé. Et ma grande interrogation, c'est pourquoi et comment aucun mécanisme dans sa tête ne s'est mis en place pour ne pas passer à l'acte. Vous savez, on a tous un jour peut-être envie de faire quelque chose de répréhensible, voler, tuer, mais on est conditionné pour ne pas faire ça. On a tout un tas de barrières morales, psychologiques, qui font que vous n'allez pas passer à l'acte. Pourquoi lui, il est passé à l'acte? Pourquoi son cerveau ne l'a pas empêché de faire ça? Et c'est même pire, puisque comme je le disais, il va même préméditer cet acte. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, et je pense que c'est lié à l'image de la femme à l'époque, c'est lié à une forme de domination masculine qui, aujourd'hui, comme vous le disiez très justement, heureusement, est révolue.
C'est une suite logique, j'ai l'impression, avec votre premier livre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la perte de votre principale fondation, votre mère, et il y a la perte de cette grand-mère qui ressurgit là. En fait, il y a une espèce de manque abyssal. Et en même temps, vous venez en quelque sorte combler les manques et leur permettre à elle, de là-haut sans doute, d'être beaucoup plus apaisée. C'est le sentiment qu'on a.
C'est juste. Vous avez eu la gentillesse de me présenter tout à l'heure comme écrivain. Je ne suis pas écrivain. Et c'est pas de la fausse modestie. Moi, j'ai écrit deux livres. J'ai trop de respect, trop d'estime et d'admiration pour les écrivains. Qu'est-ce que je fais? J'essaie juste de raconter un peu des choses qui me sont arrivées. Et ce sont des événements qui m'ont forgé, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Il y a un lien entre les deux livres, en effet, c'est évident. Il y a une volonté de rendre hommage aux morts, à ceux qui sont plus là.
Et de les maintenir vivants?
Et de les faire revivre, absolument. C'est très important. Le travail de deuil que j'ai fait après la disparition de mes parents a changé toute ma façon de voir le monde, la vie et tout ça. Pardon, hein, ça fait un peu grandiloquent de dire ça, mais oui, c'est vrai. Je vois plus les choses tout à fait de la même façon. Et donc, je pense que c'est parce que j'ai écrit le premier que j'ai eu envie d'écrire le deuxième, même si les deux histoires sont complètement différentes, bien sûr. Enfin, il y a toujours le lien de la famille, quand même, qui est très, très, très présent.
Vous appuyez sur le terme de cousin éloigné, par exemple. Famille éloignée, oui. Certes, effectivement, depuis des années, c'est toujours très compliqué de maintenir relations avec les familles.
Je vais vous dire, c'est quelque chose que je n'ai pas écrit, mais que je peux vous dire ici. Le milieu social de cette partie de ma famille, du côté de mon père, donc de ma grand-mère, c'est un milieu, on va dire, très défavorisé, très modeste. Et aujourd'hui, bon, moi j'ai été élevé dans une famille de Français moyen moins, on va dire, avec ses cousins qui étaient des gens très modestes. Et aujourd'hui, je vois le chemin que moi j'ai parcouru et j'ai une espèce, c'est sûrement très judéo-chrétien, hein, mais un peu de culpabilité par rapport à ça. Parce que je me dis, il y a un tel écart entre moi, la chance, ce que je vis moi, l'aisance dans laquelle je vis, ce genre de choses. C'est fou de se dire ça.
Vous leur rendez hommage aussi à cette famille.
Ouais.
Vous resituez d'ailleurs l'année 84. C'est très intéressant. Vous dites que c'est le début de la consommation.
Ah,
c'est un moment où la culture est devenue vraiment un art populaire. Et vous citez Coluche, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Vous dites le plus dur, c'est la fin de mois et notamment les 30 derniers jours. On est en plein cœur de ça. De cette famille avec cette gauche qui peine à ce moment-là et cette droite qui revient. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont racontées à travers tout ça, Bruce, mais surtout, ça vous raconte beaucoup, ça raconte beaucoup le petit garçon que vous étiez et comment vous avez grandi aussi. Et peut-être le regard que vous portez sur le monde aujourd'hui.
C'est un peu bizarre de dire ça parce qu'évidemment, quand on écrit un livre, on parle de soi, mais c'était pas l'objet. Mais j'ai voulu raconter quand même un peu une partie de mon enfance, mon adolescence, qui était une enfance très heureuse. Hein. Vraiment, j'ai eu la chance de vivre dans beaucoup d'amour autour de mes parents, de ma sœur, de cette grand-mère, bien sûr, mais aussi de cette famille, de ses cousins que je voyais pendant les vacances, du côté de Dieppe. Le lieu est très important, là, cette région de Normandie. Et effectivement, moi, j'ai été élevé dans ces années 80, je suis né en 73, donc dans ces années 80, où d'un seul coup, on regarde beaucoup la télévision, il y a le top 50, il y a la société de consommation qui est en plein boom, donc on va faire les courses au supermarché, on veut acheter les biscuits machin, les plats cuisinés trucs, et c'est vrai que moi, j'ai vu ça. Et j'ai vu aussi, on n'a jamais été dans le besoin chez moi. Hein, c'est vraiment pas du tout le cas. Mais c'était quand même, on faisait très attention. Et donc, il y avait un décalage entre ce qu'on pouvait voir à la télévision, la pub, en effet, l'avalanche de produits de consommation, et puis nous, ce qu'on pouvait acheter. Moi, je raconte souvent, et je le dis pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais la première fois que je suis allé au restaurant dans ma vie, je devais avoir 18 ans, parce qu'on n'allait pas au restaurant. C'était quelque chose qui nous était pas permis. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi ça que j'ai eu envie de raconter.
Il y a une forme de nostalgie, évidemment, à l'intérieur de cet ouvrage. Vous racontez ce pays de Caux, cette côte d'Albâtre, comme vous, vous le dites, avec le patois. Hein, par moments, c'est assez fou, d'ailleurs. Vous racontez sa chambre à elle, à votre cousine. Et donc, votre chambre à vous, il y avait tous les posters de Michel Platini.
Oui, bien sûr.
Et cette chaîne IFI qui vous avait été gentiment apportée un jour de Noël. C'est en écoutant la radio, d'ailleurs, que vous refaisiez déjà les matchs. Vous avez rêvé grand très tôt, finalement, Bruce.
Je ne sais pas si j'ai rêvé grand, mais en fait, j'ai eu la chance de savoir assez vite ce que je voulais faire. J'ai eu la chance, très jeune, 12-13 ans, de savoir que j'avais envie de faire ce métier de journaliste. Alors comment ? Est-ce que ce serait la presse écrite, la radio, la télévision ? Assez vite, quand même, la radio m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup attiré. Et j'ai eu envie, comme ça, dans ma chambre, de refaire de la radio. C'est-à-dire que donc, j'avais cette chaîne IFI avec deux lecteurs, donc on pouvait enregistrer, passer des trucs, etc. J'avais un micro et je faisais la radio dans ma chambre. Mais c'est vrai. Et j'avais 13 ans, quoi, 13-14 ans. Et puis, comme j'adorais le sport et le foot, parfois je commentais des matchs de football. Je faisais comme si j'avais une radio. C'est pour ça que je dis souvent, parce que moi j'ai commencé très jeune. J'ai eu la chance de commencer à travailler. J'avais à peine 18 ans. Mais ça faisait des années que j'en faisais dans ma chambre, en fait, de la radio. Donc, j'étais pas un débutant.
En tout cas, ça montre une chose, c'est à quel point vous êtes très sensible, effectivement, à ce travail de mémoire. C'est sans doute ce qui a toujours dicté votre vie, c'est le lien avec vos parents disparus, avec cette grand-mère disparue, ils vous ont transmis ça, le respect des anciens aussi, l'importance de peaufiner chaque jour un peu plus, de s'intéresser aux choses. Et vous dites que de se souvenir, c'est sentir, mais c'est aussi ralentir.
Oui, je pense que dans cette vie où on court tout le temps, la nostalgie, c'est aussi un moment de pause. Voilà, c'est aussi un moment où on ralentit, où on se souvient, où on aime écouter certaines musiques, regarder certains films, retrouver des endroits, des odeurs. Et je suis nostalgique de façon un peu extrême, mais j'assume complètement. C'est pas du tout dans le sens que c'était mieux avant, c'est que ça me permet aussi de retrouver ceux que je n'ai plus près de moi.
En tout cas, ce livre est encore une fois très très intime. C'est l'impression d'une déclaration d'amour à la vie aussi, tout court, que vous vouliez faire pour remercier celles et ceux qui vous ont permis de devenir l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui.
Sans doute. Moi, je considère que j'ai beaucoup de chance de vivre ma passion de journaliste, d'avoir des enfants, une famille, des amis. C'est déjà énorme. Et donc, je mesure aussi, moi je dis souvent cette phrase, le bonheur, c'est la somme de tous les malheurs qui ne nous sont pas arrivés. C'est-à-dire que, bon, c'est une vision un peu pessimiste, mais ce que je veux dire, c'est que oui, profitons, tant qu'on n'est pas malade, tant qu'on n'a pas d'énormes galères, tant qu'on n'est pas dans le mal, comme disent les jeunes. J'aime bien cette idée d'essayer de prendre conscience de la chance qu'on peut avoir, malgré les tracas du quotidien.
Comment a été perçu le livre, Bruce, dans la famille ?
Il vient juste de sortir, donc là j'attends les premiers retours. J'ai eu des retours de la part de certains membres qui m'ont parlé de certains détails du livre, des lieux, etc. Ça m'a fait rire parce que effectivement, je raconte ça 40 ans après. C'est aussi mon œil d'adolescent, d'enfant. Donc il y a des choses qui étaient déformées, peut-être des choses que j'ai un petit peu corrigées, arrangées. Donc il y a quand même du côté de la famille l'envie quand même de dire attention, ça c'était pas à tel endroit, c'était à tel endroit.
Pour terminer, est-ce que quand on referme le livre en tant qu'auteur, ce qui est votre cas, on arrive à pardonner ?
C'est une question très difficile. Je n'avais pas de haine ni de même de ressentiment avant de commencer à écrire cette histoire, vu qu'elle m'était quasiment étrangère. C'est ça qui est fou. Mais ce qui me choque énormément et ce qui me choque encore aujourd'hui, c'est les circonstances, la sauvagerie.
Elle a été massacrée, hein. On va être très très clair, dans une cour d'école en plus.
Là, c'est dur. Et je vais vous dire, je pense que la justice fait son travail, et c'est très bien d'ailleurs. Tout s'est déroulé avec une grande justesse. Bon, le verdict, il a été ce qu'il a été. Il a beaucoup choqué ma famille à l'époque. J'ai pas à pardonner, c'est pas l'objet, c'est pas mon sujet. Voilà.
Merci beaucoup, Bruce Tessin, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Dites-lui que je pense à elle. Elle vient de sortir chez Stock. Et comme on dit, les gens disparaissent définitivement le jour où on arrête de penser à eux.
Absolument.
Vous la maintenez en vie. Merci beaucoup, Bruce.
Merci infiniment.